Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 17 de la saison 3. Il est indiscutable que la parole se libère autour de la dépression du postpartum. De plus en plus d'informations circulent à son sujet et l'information est déjà le début du diagnostic. Elle est insidieuse, vicieuse même, et elle vous atteint dans un grand moment de vulnérabilité, en pleine parentescence. Ce mot n'existe sûrement pas, mais il traduit la transformation psychique qui accompagne tout parent à la naissance de son enfant. Vous connaissez sûrement en revanche le mot matrescence, vulgarisé par l'excellent podcast de Clémentine Sarlat. La dépression du postpartum, la DPP, comme on l'abrège, peut toucher tous les parents, maman, papa, coparents, que vous ayez ou non porté votre enfant. Et pourtant, j'ai le sentiment que nous nous sentons protégés de cette pathologie par les parcours que nous menons. Comment accepter que nous soyons en difficulté, alors que nous avons tant désiré nos enfants? Je suis intimement convaincue qu'elle est liée au manque de soutien des nouveaux parents, au manque de transmission des générations précédentes aussi, aux attentes ingérables de la société et à l'image idéale que l'on se fait de la parentalité. Oriane est passée par là. Vous l'avez sûrement suivi dans sa plongée, si vous connaissez son compte, @daronendevenir. Dans cet enregistrement, je les ai trouvées si fortes, si unies, elle et Coraline. Elles m'ont impressionnée par leur lucidité, leur cohésion et par la mise en action immédiate dès qu'elles ont compris. Je vous laisse découvrir son témoignage et vous redonne ici les noms des comptes et assos cités par Oriane, @association Maman Blouse et @lepostpartum. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Oriane.
Bonjour Constance.
Je suis ravie de te retrouver sur cet enregistrement et je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ma sollicitation concernant le sujet du jour qu'on va dévoiler un peu après. Oriane, tu as déjà participé à l'enregistrement d'un épisode que je redonnerai au moment de la sortie de celui-ci. Est-ce que tu peux quand même te représenter et nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille?
Ok, alors je suis Oriane, j'ai 36 ans, je suis en couple avec Coraline, bientôt 32 ans depuis 9 ans, mariée depuis bientôt 2 ans, et nous avons un petit Elliot qui va bientôt avoir 14 mois. Voilà.
Super, que vous avez eu donc par le biais d'une, enfin par la méthode de la FIVROPA.
Exactement, en Espagne.
Voilà. Voilà. Donc, je vous invite évidemment à aller écouter l'épisode où Oriane raconte sa rencontre avec Coraline et raconte tout leur parcours. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça.
Non.
On est là pour évoquer un sujet qui te tient à cœur et qui me tient à cœur, qui est la dépression du postpartum.
Voilà. C'est ça.
Dépression par laquelle, hélas, tu es passée. Donc moi, j'avais suivi ta grossesse, tout ça. Et évidemment, par le biais de ton compte où tu as quand même beaucoup libéré la parole sur ce sujet-là,
oui.
De ton compte Instagram, j'ai pu suivre aussi tout ce que tu vivais. Alors, je suppose que tu nous en as caché une bonne partie.
Finalement, j'ai caché une bonne partie. Je dirais même pas ça parce que ça a vraiment été... ce compte Instagram qui est différent de celui actuel parce que je n'y ai plus accès à l'ancien. Vous toutes y avez accès, mais moi non. Vraiment, je m'y suis vraiment livrée quand je relis encore certains posts parce que je faisais des notes avant. Il y avait des phrases qui me passaient par la tête, je voulais les garder. Je me dis comment j'ai pu être dans cet état-là. Donc je me dis bien que à l'instant T, je devais quand même livrer des choses assez violente peut-être, mais d'un sujet quand même qui reste grave et existentiel dans la vie des parents et qui doit être abordé. Oui,
complètement. Et c'est vrai que moi, quand je lisais tes posts, mais j'avais tellement envie de venir te secourir. c'était viscéral. Enfin, tu sais, ça prenait au trip.
Ouais. Ah oui, c'était. Oui. Je me relis, c'est vrai, et c'est j'ai fait. Waouh.
Oui, même maintenant, avec le recul, tu te rends compte que.
Ah oui, je me reconnais pas. Pas du tout.
Ouais, tu m'étonnes. Je vais redonner ton compte, ton ancien compte, pour que nos auditeurs puissent aller consulter le poste, donc qui était @daron avec un tiret en tiret devenir, si je ne me trompe pas.
Ouais. Alors c'était daron tiret du bas en tiret du bas, voilà, et devenir.
Voilà. Et maintenant, tu es passé avec des points.
Voilà. Maintenant, je passe avec des points. En final.
Voilà. Ou point de commencement.
Ou point de recommencement. De recommencement, c'est ça. Non voulu, mais peut-être un signe, je sais pas.
Voilà, on va dire ça. Est-ce que tu peux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez flou. Alors, la parole se libère globalement autour de la dépression du postpartum depuis quelques années. Mais je suppose que quand elle te tombe dessus, tu l'identifies pas. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait réagir en fait? Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Je suppose que tu savais pas que tu étais en dépression, mais...
Oui, non. Alors au début, c'était... j'ai eu quand même un accouchement assez particulier, traumatique, prématuré déjà. Bon, ça, ça me... Enfin, je ne pensais pas que ça me perturbait, me perturberait, mais à croire que finalement, si. Mais c'est surtout que on m'avait du coup volé 2 mois in utero. Pourtant, j'avais gagné 2 mois avec Elliot, finalement. Mais je m'inquiétais énormément. Je m'inquiétais de tout ce qui pouvait se passer. J'anticipais, tout ce qui était colique, RGO, les dents, alors qu'on y était encore un peu loin quand même. J'anticipais tous les mots MAUX que pouvait avoir Elliot. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me devais de tout savoir, en fait. Pour ne pas tomber des nues. Pour pas dire. On m'avait pas dit.
T'étais un peu dans l'hypervigilance, en fait.
J'étais dans l'hypervigilance constamment. Et même la nuit. Parce qu'on dit, dors quand bébé dort. Alors, la nuit, oui, j'arrivais à dormir, mais il y a des fois, non. Parce que faut savoir qu'un petit bébé, ça fait des petits bruits de dinosaures. Et moi, ça me perturbait. Je n'arrivais pas à lâcher prise, à me détendre, à faire le vide. Pas du tout.
C'est ça.
J'étais constamment sur Internet. Je trouvais des solutions à tout. Et c'était pas que sur les mots d'ailleurs, c'était même quel jouet est mieux qu'un autre, quel vêtement, quel portage, tout.
Ouais, tout. Il fallait que tu maîtrises tout.
Il fallait que je maîtrise tout. Ce que je n'avais pas pu maîtriser à cause de l'accouchement, fallait que je le maîtrise. Ça a commencé déjà par l'allaitement, qui a été perturbé, annulé, arrêté, ce qui m'a fait du bien.
D'accord.
J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Je suis d'abord tombée dans une Là, je sais pas si c'est un rapport avec la dépression de postpartum, mais je suis quand même tombée dans une petite dépression dans le sens où j'arrive pas à allaiter. C'était la seule chose que je pouvais faire pour mon bébé, pour un prématuré. Même ça, j'y arrive pas. Enfin, c'était très compliqué. Mais finalement, ça m'a soulagée. Ça m'a enlevé un poids et une pression de plus faire le tire-lait. C'était très contraignant et warrior à celle qui arrive des mois et des mois et des mois, vive les shoots d'ocytocine pour continuer, parce que c'est très compliqué quand même. Donc ça a commencé par ça, et après l'hypervigilance,
Parce que du coup, toi, tu as tenté donc d'allaiter Elliot, je dis tenté, après peut-être que tu as allaité, excuse-moi si c'est pas le bon mot, mais tu as tenté de l'allaiter tant qu'il est en réanéonate, c'est ça?
Non, on pouvait pas parce qu'il n'avait pas encore cette faculté de succion. Alors, ouais, au réflexe de succion, voilà. Il était sur, il était avec une sonde nasale déjà, du coup. Et pourtant, j'avais, on avait travaillé dur avec Coraline quand j'étais hospitalisée pour tirer le lait, même si c'était un millilitre, deux millilitres, c'était une victoire. Mais non, on a tenté, mais il prenait pas. Et puis avant, faut le peser, le faire téter, le repeser, tirer le lait, lui redonner. En fait, je m'occupais pas de mon fils. J'étais là pour le coup, pardon, j'étais vraiment une vache, quoi. Alors que un allaitement qui aurait pu bien se passer, bah j'aurais pu faire du pot à pot et l'allaiter quand il en avait besoin. Là, c'était pas du tout le cas.
Ouais.
Puis avec mes deux cicatrices, j'avais beaucoup de difficultés à l'avoir dans les bras. Je pouvais pas l'avoir plus d'une heure ou deux. Ça commence à me faire mal parce qu'il y a une petite complication, voilà, dans la césarienne. On a dû refaire une autre opération. Et oui, une opération du coup durant la césarienne où j'ai deux cicatrices. Donc ouais. Ça aussi, ça a été perturbant.
Oui, ça a dû perturber votre lien d'attachement aussi, probablement.
Oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pu le voir grâce à Coraline 4-5 heures après l'opération. Mm-hmm. Ça, c'est Coraline qui a insisté. Ils ont quand même emmené mon lit brancard en réa bébé, chose qui n'est pas très aisée.
Je me doute.
Je ne m'en souviens pas de ce passage-là. On a dû y rester, je crois, une heure peut-être, je ne sais plus, mais je ne m'en souviens pas. Mm-hmm. Mais apparemment, je l'ai trouvé très, très beau, que j'arrêtais pas de le dire. Donc, je pense que c'est déjà un premier lien.
Oui, complètement.
Et que surtout, je l'ai reconnu. Et ça m'a énormément aidée. C'est grâce aux photos 3D. Ça, c'est des échographies en or.
Oui.
Dans ce genre d'accouchement qui peut être traumatique, c'est que, mais vraiment, je l'ai reconnu. J'ai dit, ah, lui, c'est le mien, lui.
J'en suis sûre.
C'est certain. Donc, je l'ai reconnu, ça m'a énormément aidée. Et après, j'ai été, je sais pas, spectatrice peut-être. Je le prenais dans mes bras, j'étais heureuse, je souriais, il me regardait, on se regardait, mais ça n'a pas été, bah, comme tout le monde le décrit, l'amour fou. Mm-hmm. Pour Coraline, ça a été différent. Elle avait un besoin viscéral d'être avec lui, mais aussi d'être avec moi. Et en soins de néonate, c'était pas possible d'être ensemble.
D'accord.
Donc, ouais, c'était pas possible d'être à trois.
D'accord.
Donc ça aussi, ça a été difficile, mais il y a des fois, je me disais que il est en néonate, il est en sécurité, accompagné, et il y a maman Coraline qui y est. Je peux faire mon tirage de lait et je peux me reposer chez moi. Mmh. Alors si Coraline avait besoin d'y être des heures et des heures et des heures, moi, ça ne me perturbait pas.
D'accord.
Donc déjà, moi, je trouve ça un petit peu bizarre.
Oui.
Mais voilà, je me disais, j'y allais quand même. J'y allais 4 heures. Au bout d'un moment, j'y suis allée durant les tétés parce qu'on a tenté. Mais j'étais perturbée qu'on ne soit pas trois ensemble. Mais j'étais pas perturbée qu'il soit. J'étais pas perturbée de la situation encore. J'étais pas redescendue, je pense.
D'accord.
Je sais pas.
Mm-hmm. Oui.
Là, c'est difficile à décrire. Je sais pas, j'étais tellement concentrée sur mon allaitement que j'en oublie peut-être même Elliot, en fait, alors que c'était pour lui.
Ouais, en même temps, je pense que tu as vécu quelque chose de tellement difficile au niveau de ton accouchement qu'à un moment donné, tu as fait des ruptures, tu vois ce que
ah,
je veux
oui.
dire.
Ah oui, oui.
Ouais, tu as catégorisé les choses. Et...
Peut-être, ouais, priorisé. Là, Elliot, il est entre de bonnes mains, maintenant c'est à moi de faire mon taf, le seul que je peux faire. Donc c'est celui-là, sauf que j'ai un autre taf à côté, c'est d'aller être auprès de lui. Donc, mais il s'est créé. En gros, j'ai dit je t'aime à Elliot au bout de 2 mois.
D'accord. Ouais. Ok. Oui. Donc, effectivement, il y a une difficulté entre guillemets, bien sûr, sur le lien d'attachement.
Ouais. Par contre, il n'y a pas eu de je ne t'aime pas ou qui c'est ce petit ou qu'est-ce que j'ai fait. Non. C'est un petit qui était dans mes bras, que je devais prendre soin, qui était trop beau, qui était trop mignon. Mais mon bébé, la chair de ma chair, enfin tous les mots que l'on peut entendre, non, je ne les ai pas du tout.
Tu l'as pas ressenti?
Non.
Est-ce que tu identifies que ça a pu être déclencheur de cette dépression?
Pour moi, non.
D'accord.
Parce que je savais que ça allait venir.
Ah, au moins, tu avais cette certitude-là.
Oui, parce que vraiment, il y a des fois, c'est pour ça que j'ai eu du mal à discerner si c'était la dépression postpartum, dans le sens où moi, j'avais souvent entendu dire qu'il y avait les phobies d'impulsion, donc se faire du mal ou penser à faire du mal au bébé, ce que je n'ai pas eu, ou ne pas du tout aimer, alors, du tout, c'est peut-être fort, je ne sais pas, mais ne pas aimer l'enfant que l'on vient de mettre au monde. Moi, ça n'a pas été ça non plus. Moi, en fait, je me sentais aller de plus en plus mal, Et je sais que les bébés, les nourrissons, ce sont des éponges. Mmh. On ne peut pas tout cacher. Un bébé, un enfant, son conjoint, sa conjointe. Mais je voulais tellement qu'il ait que de bonnes ondes, parce qu'il n'avait pas fait ces deux derniers mois in utero, que je voulais pas que tout soit parfait, mais je voulais que, voilà, que au moins moi, qui suis le plus souvent avec lui, je sois dans de bonnes conditions, que dès que j'allais mal, je me mettais martel en tête, je vais le détruire.
Ouais, d'accord, ouais.
Parce que je vais mal, je vais lui transmettre mon mal-être.
T'étais hyper dure avec toi-même, ouais.
Ah, mais complètement. Pour moi, j'étais son démon. J'allais l'anéantir, j'allais le détruire. Pas lui faire du mal physiquement. Je ne l'insultais pas, je lui disais pas qu'il servait à rien, que t'aurais jamais dû naître. Non, jamais, non, ça. Jamais de la vie. Mais c'était le fait que je pleure, le fait que je sois fatiguée, le fait que des fois j'aimerais être ailleurs. Et à la fin, je me dénigrais tellement et j'étais tellement fatiguée que je ne parlais plus. J'arrivais plus à parler, en fait. Je lui parlais, mais dans ma tête.
D'accord.
Sauf que ça, il l'entend pas. Et c'est important de parler à un bébé.
Bien sûr.
C'est important de parler tout court à quelqu'un, de toute façon. Et c'est là que j'ai commencé, voilà, j'ai voulu fuir. Dans mes posts Instagram, je disais que, voilà, j'avais peur de devenir comme ma maman, qui a toujours eu des traitements antidépresseurs et anxiolytiques. Mmh. Et de fait de pas aller bien, j'avais l'impression de devenir comme elle, en fait.
D'accord.
Et ça s'est répercuté, forcément, ça n'a pas été facile pour ma sœur, ça n'a pas été facile pour moi. Donc j'avais peur de retransmettre tout ça à mon fils, en fait.
Mmh. Est-ce que tu arrivais, parce que tu disais que tu parlais plus, enfin que tu parlais pas, en tout cas avec Elliot, est-ce que tu arrivais à parler avec Coraline?
Oui, ça par contre, oui. Dès qu'elle rentrait, elle prenait le relais et c'était un bonheur parce que elle lui parlait comme je rêvais de lui parler, en fait. Voilà, avec des voix changeantes, des voix dans les aigus, parce que ça interpelle les enfants, les bébés. Et j'adorais, ça me faisait du bien, en fait. Je me disais, ah, il a une bonne personne auprès de lui.
Ouais.
Ouais.
Mais ça ne te faisait pas plus culpabiliser?
Si, ça a commencé, parce ouais. que oui, ça a commencé dans le sens où il y a un moment donné, j'étais vraiment au point de non-retour, en fait. Tout a pété, en fait, la semaine où il aurait dû naître. Il aurait dû naître le 25 novembre, donc il est né le 1er octobre, il aurait dû naître le 25 novembre. Et là, j'ai une seconde fois craqué. Je me souviens plus de la première fois que j'ai craqué, mais là, la seconde fois, j'ai vraiment craqué. J'avais demandé auparavant à Coraline de se mettre en arrêt, parce que j'avais besoin. Mm-hmm. J'avais besoin d'un relais, là, en fait. Et là, ce soir-là, ça a craqué. On a pleuré toutes les deux, on a parlé énormément. Et je lui ai dit, apparemment, parce que je m'en souviens plus trop. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner aussi avec toi. C'est mm-hmm. parce que je commence à oublier certains passages. Quand je lui redemande, apparemment, c'était ça où... je ne me souviens plus de ce que j'avais pu lui dire, mais en gros, il faut absolument que tu te mettes en arrêt, sinon ça va pas le faire.
Oui.
Mais alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Je vais me barrer, en fait. Et je vais partir. Puisque je serai loin, il ira beaucoup mieux. Mais comment un bébé peut aller mieux sans un de ses parents?
Oui, non, ça c'est sûr.
Donc, j'étais dans cette ambivalence-là. Je pars pour qu'il aille mieux, mais si je pars, non, je peux pas partir. Je peux pas le laisser. C'est impossible. Mm-mm. Donc, on en a beaucoup discuté, et finalement, elle a réussi. Elle s'est mise en arrêt. Et c'est là qu'on a commencé à faire des démarches. J'ai vu mon médecin traitant, j'ai vu une psychologue dès le mois de janvier. Ça a démarré. Coraline s'est donc mise en arrêt, elle a énormément pris le relais. Je ne sais plus ce qui s'est passé durant cette semaine. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que Elliot n'a plus dormi dans notre chambre. Il a dormi dans son lit et Coraline a installé un matelas dans son lit. Dans sa chambre, pour qu'elle puisse dormir avec lui et moi que je reste dans notre chambre.
D'accord.
Donc à ces 2-3 mois, je n'ai plus dormi avec Elliot.
D'accord.
C'est pas pour autant que je dormais, parce que le bébé, on l'entend. Et j'étais là à me balancer dans le lit, mon Dieu, je peux pas aller les voir. Ou dès que j'y allais, j'étais en panique. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu arrives à dormir? Tiens, attends, je vais préparer. Et je speedais pour préparer les choses. Et Coraline me détendait. Eh, c'est pas grave. Il va attendre 30 secondes supplémentaires, le temps que tu fasses le biberon, tout va bien. Moi, fallait que tout soit tout de suite, parce qu'à ce moment-là, je comprenais pas que les pleurs pouvaient être, alors pas bénéfiques, mais qu'un bébé pouvait pleurer par besoin.
Oui.
De pleurer, juste de pleurer. Pas par besoin de quelque chose.
Oui, toi, il fallait que tu y répondes.
Ouais, il fallait que j'y réponde. Ouais. C'était hors de question de laisser pleurer mon bébé. Mmh. Sauf que ce n'est pas possible.
Un bébé, ça pleure.
Un bébé, ça pleure. Ça parle. Et parler, pour lui, c'est pleurer.
Voilà.
Voilà. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Ça, je pourrais dire que l'on ne m'a pas dit.
Oui. Et quand tu as été voir ton médecin traitant, il a de suite identifié que tu étais en dépression du postpartum ou il t'a envoyé vers un spécialiste qui, lui, l'a diagnostiqué?
Alors, pareil, là, c'est un peu flou, mais diagnostiqué, vous êtes en dépression postpartum, je n'ai jamais eu la phrase.
D'accord. Si tu veux. Ouais, ça, c'est dur.
Voilà. J'ai eu, effectivement, là, vous êtes à bout, vous devez vous reposer, vous devez passer le relais, vous devez prendre soin de vous, bébé va bien, bébé a malheureusement des maux de bébé. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter aussi. J'ai
plus, oui,
on fait un milliard de choses pour un milliard de personnes, mais pour les maux de bébé, on ne fait rien, quoi. Enfin, bref. Ouais. Mais, donc, moi, je vous conseille, voilà, d'aller voir quelqu'un. Donc, on a été chercher, alors, je sais plus si on nous a orienté. Je crois qu'on nous a orienté pour une psy qui suivait des personnes qui étaient en dépression postpartum, je crois. Malheureusement, on n'a pas pu avoir un rendez-vous tout de suite. On a eu un rendez-vous avec une de ses confrères.
D'accord.
Donc, ça a commencé au mois de janvier.
D'accord.
Dans tout le mois de décembre, on n'a rien fait du tout, mais on a commencé au mois de janvier.
Donc, Elliot, tu avais 3 mois.
Voilà.
D'accord, ok. Ouais. Et à partir de janvier, il s'est passé quoi pour toi?
Alors, à partir de janvier, du coup, j'ai eu le suivi avec la psychologue, on va dire toutes les semaines, puis ensuite toutes les 2 semaines. Et il y a aussi, chose très très importante, vu que nous sommes quand même nombreuses et nombreuses à être sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, il y a un compte Instagram et une association Maman Blues, que je suivais énormément à cette époque, dont leur post me parlait pour la plupart. Parce que pareil, je n'ai pas de phobie d'impulsion, j'avais pas de soucis de lien d'attachement, non. Mais pour certains, la fatigue, l'accumulation me parlait énormément et Coraline les a contactés. Qui, eux, nous sont dirigés vers le centre psychiatrique périnatal, centre périnatal psychiatrique du CHU de Bordeaux. D'accord. Donc, de là, pareil, on a pris rendez-vous pour pouvoir avoir un suivi. Et j'ai pu avoir, à partir de tout le mois de février, tous les mercredis, je pouvais y aller.
D'accord.
La matinée jusqu'en début d'après-midi.
Et toute seule, juste toi?
Juste moi, en tant qu'adulte, et avec Elliot.
Et avec Elliot, ok.
Et avec Elliot, ouais. Parce que justement, c'était pour... alors, je ne le déconseillerais pas, mais je ne le conseillerais pas non plus. J'étais juste déçue dans le sens où je pensais qu'il allait y avoir d'autres parents en dépression postpartum. Et finalement, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. J'étais la seule, déjà, de mon plein gré. Déjà.
D'accord.
Ouais, les autres parents étaient là à cause de la PMI ou de la ZE.
D'accord, oui, donc voilà. Ça change tout le contexte.
Ça change tout le contexte. Moi qui ne voulais pas que Elliot ait un environnement, je vais simplifier, un environnement psy, là je l'emmenais totalement dans la grotte du diable, quoi.
Ouais, je comprends.
Voilà, il y avait des pathologies, voilà, avec traitement. Bon, je sais, la dépression est une pathologie, mais j'étais pas là par la PMI ni la ZE.
Oui, bien sûr, t'étais là de ton plein gré.
J'étais là de mon plein gré, donc à chaque fois qu'on me demandait ça, t'as voulu venir ici? Ouais, donc j'expliquais pourquoi, et non, les autres mamans, c'était pas pour ça du tout. J'étais pas super à l'aise, Elliot le sentait, il ne dormait pas, et il pouvait pas quitter mes bras, donc c'était très 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 fatigant. Mm-hmm. Très très fatigant. Je dis que je le déconseillerais pas, ou que je le conseillerais pas non plus, parce qu'en fait j'en ai parlé du coup à ma psychologue, parce que je voyais également ma psychologue, qui me disait, si vous voyez que ça ne vous a pas convenu, c'est que vous étiez pas faite pour aller là-bas, et c'est que tout cet environnement ne vous concerne pas, donc c'est que vous en faites pas partie.
Oui, elle a pas tort.
Et voilà, le côté positif de tout ce mois de février dans cet endroit. Mais moi, j'étais prête à la base à aller en hospitalisation complète.
Oui, oui.
Comme ça, je serai loin d'Eliott, et on pourra prendre en charge ma dépression, sauf que quand on va en hospitalisation complète, donc les nuits, il y a aussi bébé.
Oui.
Ah non, c'est mort.
Parce que là, tu ressentais quel besoin, en fait, en te disant que tu partirais en hospitalisation complète et en t'éloignant d'Eliott?
Prendre soin de moi, qu'on m'aide, qu'on me dirige, qu'on me calme avec mon hypervigilance, qu'on me calme avec bébé ne va pas bien alors qu'il va bien.
D'accord, ok.
Et que Eliott soit entouré que de positivisme.
Je comprends complètement.
Voilà.
D'accord.
Compliqué.
Très compliqué. Et je me doute qu'en plus de ça, enfin, c'est quand même long. Hein, donc on parle de 2 mois pour le moment, pour commencer.
Voilà.
C'est déjà très très long, surtout quand tu es dans cet état-là.
Bah, ça a vraiment commencé, oui. Alors, il est rentré le 17 octobre à la maison. Au début, ça a été. En novembre, ça a commencé. Parce qu'il y a commencé à avoir les crises de larmes, de pleurs, d'explications avec Coraline. Décembre, je n'ai pas trop de souvenirs. Janvier, du coup, voilà, la psy, voilà, qu'on prend contact avec le centre psy. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir tonton Chevelon. Donc, c'est mon beau-frère qui est venu nous aider pendant 2 semaines. Mmh. Et ma belle-mère qui est venue également pendant 2 semaines à la maison.
D'accord.
Qui viennent tous les deux de Belgique et de Lille.
D'accord.
Enfin, de Bruxelles et de Lille. Donc ça, je les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont fait beaucoup de bien.
Tu l'as accepté facilement, cette aide ?
Ah oui, je l'attendais.
D'accord.
Je l'attendais, je le demandais à Coraline, fais venir quelqu'un, que quelqu'un prenne le relais. Elle, elle n'en avait pas besoin. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on lui foute la paix, qu'on la laisse avec son fils, avec moi, construire notre rythme de famille. Du coup, elle a pris sur elle. Parce qu'elle, vraiment, elle n'avait pas besoin d'elle. Alors, tout allait bien, elle n'était pas aveugle de la situation, puisque c'est elle qui a tout fait pour moi. Mais elle, en tant que maman d'Eliott, elle allait bien. Donc, elle n'avait pas besoin de relais, mais c'était pour moi. Mm-hmm. Voilà, donc, j'ai eu toute cette aide, que je trouve déjà énorme.
C'est génial, en fait, d'avoir au moins ce relais-là. Tout le monde ne l'a pas, surtout dans des situations comme ça. Je trouve ça chouette. Et ils ont réagi comment, eux, par rapport à toi ?
On n'a pas vraiment parlé. Ils ont compris. Parce que c'est Coraline qui leur a expliqué. Ils demandent toujours si je vais bien, parce que je suis toujours sous traitement. Mm-hmm. Mais non, on n'en a pas parlé. Donc, ils ont été, je pense, indulgents, calmes, cool,
compréhensifs.
Et compréhensifs. Et ils ont essayé de me faire rire. Et voilà.
D'accord. Tu viens de parler de traitement. Tu étais mise sous traitement, du coup, à ta demande
Oui. Alors, oui. Ouais. J'en ai parlé. Déjà, antidépresseur, je connais pas. Enfin, je connaissais pas. Donc, déjà, anxiolytique. Donc, mais j'ai eu les deux. Anxiolytique plus pour dormir, me calmer le soir. Et bon, mon antidépresseur, parce qu'il fallait. Et, j'ai vu les effets quand même, oui, au bout de, bon, ça met du temps à prendre effet. C'est un peu ce qui est vicieux, parce que on peut croire qu'on va mieux. Mais en fait, on oublie que c'est les traitements surtout qui font effet. Et quand j'ai repris le travail, au mois de mars, je me suis sentie beaucoup mieux. Déjà.
D'accord.
Ouais, non. De par les traitements et sans doute aussi l'aide que j'ai eue au mois de janvier et la reprise du travail qui m'a fait énormément de bien. Parce que déjà, j'ai pu avoir une reprise à 80%.
D'accord.
Pas du tout négligeable, c'était une chance.
C'est du fait de la dépression postpartum ou c'est une demande que tu avais faite?
Ça, c'est gracieusement après le congé maternité, on te propose soit de reprendre à 100%, soit à 80%. Voilà. Alors, moi, j'ai sauté sur l'occasion déjà par rapport à la nounou, par rapport à moi, et puis bah voilà, j'ai le droit. Donc j'y vais.
T'as eu bien raison. On peut acheter quand on a quelque chose qui nous est offert.
C'est ça, dans le monde du travail. Oui.
Et du coup, là, tu disais que c'était piégeux, en fait, parce que tu as pu te sentir mieux.
Oui.
Alors que c'était...
Bah, alors, j'ai cru me sentir mieux. J'ai essayé d'arrêter, si tu veux, les antidépresseurs fin mai, le mois de juin. Mm-hmm. Donc, j'ai arrêté. C'était pas non plus un gros dosage. Enfin, je pense que c'était pas un gros dosage. Et en plus, l'été arrivait. Enfin, voilà... soleil faisant, ça me requinquait aussi. Enfin, j'imagine, hein, je ne fais qu'imaginer. Donc, j'ai essayé d'arrêter. Parce que vraiment, je me sentais beaucoup mieux. Pas super bien non plus, mais beaucoup mieux. Je savais que j'avais des journées toute seule avec Eliott. J'appréhendais un petit peu moins. Parce que, avec ma reprise, donc, on a dû faire tout un planning avec la nourrice. Et un samedi sur deux, j'étais toute seule avec Eliott.
Parce que toi, ta difficulté, c'était de passer du temps toute seule avec lui.
Oui, ouais.
D'accord. T'avais peur de quoi ?
J'avais peur. Bon, alors, c'est vraiment familial. C'est que, du coup, ma maman, comme je l'ai dit, a eu un traitement et qui a toujours anxiolytique et antidépresseur. Et ma sœur, qui est l'aînée de 4 ans de plus que moi, qui était l'aînée de 4 ans de plus que moi, est morte il y a bientôt 5 ans.
D'accord.
Et elle s'est suicidée, en fait.
D'accord.
Et elle a eu un rapport conflictuel pendant des années avec ma mère, parce que pour elle, ça peut être à cause de ma mère. Et parmi d'autres, j'imagine, coin psy aussi. Mais moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de diagnostic par rapport à elle. Elle est décédée dans son pays d'adoption, l'Allemagne, et mariée avec un Mexicain, donc il se parlait en anglais. Donc déjà, on a dû, voilà, pour la traduction, pour comprendre, c'était connu. Je veux dire, je savais qu'elle était pas bien. Je suis en accord avec ça. Je sais pourquoi elle l'a fait. De toute façon, j'ai toujours eu l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête entre ma sœur et ma maman. Donc, je savais qu'un jour, ça allait arriver. Mais je ne pensais pas que ça arriverait, c'est vrai, à ma sœur.
D'accord.
Moi, je suis en accord avec ça. J'ai toujours été en accord avec le suicide. De toute façon, j'ai pas attendu que ma sœur passe le pas ou que ce pas-là réussisse parce que c'était pas la première fois pour, voilà, être en accord avec ça et comprendre ces personnes qui en arrivent là, c'est la façon dont ça peut être fait, qui peut me poser question et voilà. Et ce que moi j'avais peur en fait, c'est que j'ai vu un psy durant du coup mon deuil pour ma sœur, qui m'a dit du coup par contre vous ferez attention à l'adolescence si un jour vous avez un enfant.
D'accord. Donc lui avait quand même acté qu'il pouvait y avoir une coïncidence génétique, enfin pas une coïncidence mais
héréditaire, quelque chose de génétique. Ouais. Et de mes, on va dire, 2-3 mois de suivi avec ce psy, c'est la seule phrase que je retiens.
Non, mais c'est... Ouais, je pense qu'il n'a pas mesuré les paroles qu'il prononçait, mais ça, c'est destructeur. Hein.
Bah, la preuve.
Oui, la preuve.
Je m'y penserai toute ma vie, de toute façon, et j'aurais peur toute ma vie.
Par contre, il t'a pas mis en alerte sur le fait que, potentiellement, sur une période où, de mise à nu, quelque part, donc sur un passage, comme la naissance de ton enfant, tu pouvais, toi aussi, être sensible à une dépression.
Non. Non, parce que à cette période-là, on parlait pas de grosse. Bah, non, mais bah, si, pourtant, on parlait d'enfants, on aurait pu faire attention aussi sur la grossesse, mais non.
D'accord.
Et pourtant, c'était ma peur, la grossesse, ma peur durant la grossesse, c'était ça. D'être angoissée par rapport à ça, de transmettre à mon enfant ce gène, s'il existe, ou cette hérédité de maladie psychiatrique de ma famille, s'il y en a une, parce qu'il n'y a jamais eu de diagnostic posé, ou en tout cas connu de ma part. Donc, j'avais peur, soit durant la grossesse, et non, j'ai vécu une grossesse, mais du feu de Dieu, j'ai adoré. Adoré. Et non, finalement, c'est venu après. J'ai repensé à cette phrase et bim.
Ouais, voilà.
Et bim.
En fait, t'y as repensé à un moment où t'étais hyper vulnérable, voilà. Vraiment très fragile. Ouais. Et ouais, ça explique beaucoup de choses. Hein.
Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi je voulais fuir, en fait. Je voulais pas qu'il soit avec moi. Je voulais pas être ma maman et que Elliot soit ma sœur. Alors que pourtant aussi, j'avais vachement été rassurée sur le fait qu'on fasse une fibre au pas.
Oui, c'est ce que j'allais te dire, et pourtant c'était une repas.
Et pourtant c'était une repas, donc pas mes gènes. Et ça aussi, ça avait fait partie du pourquoi on faisait aussi la fibre repas au fond de moi. Ça, je l'ai jamais dit.
D'accord.
Il fallait tout expliquer. Mais il y avait ce point-là aussi qui fait au moins. Mais non, il y a eu cette phrase de Dite, et ça reste. Hein.
C'est vrai que je crois que sur le premier épisode, tu m'avais parlé du fait que tu ne voulais pas transmettre tes gènes.
Ouais, peut-être, oui. Peut-être que j'en avais parlé.
Ça me parle, ou alors on en avait parlé ensemble. Mais...
Oui, une fois que c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et puis, de toute façon, on sait bien que c'est pas que génétique, pas que héréditaire. Donc,
bien sûr.
Je fais un travail.
Mais il y a un facteur quand même.
Mais il y a un facteur.
Tu vois, pour la maman, pour toi, je veux dire, il y a quand même un facteur.
Donc, moi, je sais que je suis totalement. Alors, je sais. On me le dit, par chance, je ressemble plus à mon père qu'à ma maman pour ça. Et je suis différente de ma sœur. Mais rien n'est impossible. Donc, je travaille là-dessus aussi. C'est pas parce que c'est arrivé à ma mère, c'est pas parce que ma sœur a fait ça que je serai comme ma mère et que mon fils va vouloir à l'adolescence ou adulte. Voilà.
Oui, bien sûr. Et puis bon, encore une fois, il n'y a pas que la génétique, mais si toi tu te prends en main et que tu es en paix avec toi-même, tu vas rien véhiculer en mon sens. Hein.
Mais oui. Mais c'est surtout que c'est pour ça. Donc je disais que au mois de juin j'ai arrêté les antidépresseurs parce que je me sentais redevenir la Oriane que tout le monde connaît, que je me connais, plutôt solaire et bonne vivante. Donc arrêtons, tentons. J'ai tenté et non, ça l'a pas fait.
C'est toi qui as pris cette décision ou tu l'as prise en accord avec ton psychiatre?
Ah non, je l'ai prise toute seule et je la conseille à personne. C'est pas bien du tout. Alors que je suis la première à dire de ne jamais arrêter n'importe quel traitement comme ça. Mais moi, je l'ai fait parce que je suis... Je sais pas.
Ne t'appliques pas à toi-même, ce que tu dis aux autres.
Exactement. Comme tout le monde.
Exactement.
Et je regrette pas de l'avoir fait. Parce que j'ai compris que j'avais besoin des traitements, finalement, encore un peu. Parce que ça n'allait pas. Mes angoisses revenaient. Et je commençais aussi à avoir... chose que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant, mais le postpartum au niveau du corps, de pas supporter mon corps, voilà, bref, d'accord, un petit, voilà, chose à laquelle j'avais même pas pensé une seule seconde avant. Et un jour, je vois, au mois de juillet, je vois un post Instagram d'une personne que je suis et que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le postpartum. Mmh. C'est Justine qui le tient et qui, elle, pareil, avait arrêté et a dû reprendre parce qu'elle a senti que ça n'allait pas et que c'était effectivement à cause de l'arrêt. Et là, ça m'a fait tilt.
Oui.
J'ai punaise, mais oui, si je vais pas bien, c'est à cause de ça, en fait, mais t'es bête, c'est parce que ton corps est moche, que tu penses que ton corps est moche, que tu penses que t'es nulle. Non, non, c'est parce que t'as arrêté l'antidépresseur et que c'est pas le moment d'arrêter.
Oui, parce qu'en plus de ça, le risque, c'est qu'après, tu tombes dans l'engrenage du dénigrement et que tu n'arrives même plus à être lucide par rapport à ça.
Exactement. Mmh. Exactement. Donc, du coup, j'ai repris et voilà, j'ai repris dès que j'ai pu. Alors là, par contre, j'en avais parlé et j'ai repris dès que j'ai pu parce qu'en plus, il y a les vacances, la reprise du travail, beaucoup d'étapes ne sont rien dans la vie normale, mais quand on n'est pas bien, c'est des grosses étapes. On ne veut pas foirer les vacances à des gens, on ne veut pas foirer ses propres vacances. C'est pareil, toujours le rapport avec Elliot. Donc, j'allais toute seule avec lui. Enfin, donc non, fallait que je reprenne. Et depuis, ça va, voilà, le cheminement se fait. J'ai toujours un traitement. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'arrêter parce que j'ai peur de l'arrêter, du coup.
Mais je pense que tu ne l'arrêteras plus toute seule.
Mais plus toute seule. Non. Bah, c'est surtout que je ne sais pas, en fait, quand est-ce que je vais savoir que si je ne vais pas bien, bon, c'est une petite passe, parce que c'est une mauvaise semaine, une mauvaise journée, ou un mois pourri, enfin, quand est-ce que je vais savoir ça? Le discernement entre la dépression et, bah, c'est la vie. Ça arrive, on peut pas aller bien.
Après, tu vas continuer très certainement à te faire suivre malgré l'arrêt du traitement.
Alors, ça, par contre, c'est la prise en charge qui est pas top pour ça. C'est bien la psychologue. C'est que la psychiatre, j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous, et c'est le seul qui est remboursé intégralement. Et oui, qui, en plus, pour avoir un suivi thérapeutique, il faut... Bah, c'est mieux d'avoir une psychiatre, évidemment. Mais par contre, c'est bien joli, la psychologue, même si c'est remboursé, il y a que 5 séances de remboursé par an.
Oui, complètement.
Donc, moi, j'en étais déjà à 7-8. Ouais, ça fait quand même... Et encore, la mienne n'était pas chère. Encore, la mienne n'était pas chère. Mais il ne faut pas prendre un psy parce qu'il n'est pas cher.
Non, non, il faut prendre... Alors là, c'est hyper important, hein, tu fais bien de le souligner, mais prendre quelqu'un qui te convient.
Oui, parce que bah, la preuve, pour le deuil de ma sœur, peu de temps après, je ne l'ai plus revue.
Ben oui, forcément.
Et du coup, je ne me sentais plus en phase.
Ben et oui, enfin, ça se comprend complètement. Un psy ne doit pas avoir des mots qui sont jugeants. Alors, ce n'était pas jugeant, tu me diras.
Non, mais, non, c'était prévenant.
C'était prévenant, mais...
C'est pas le moment de me le dire, et puis oui.
Voilà.
Il ne faut pas dire ce genre de phrase. C'est une période fragile pour tout le monde.
C'est ça, nouvelle ça reste vie. Un autre passage.
C'est un autre passage. Chaque chose en son temps. Et bah maintenant, c'est ce que je me dis à chaque fois, chaque chose en son temps. Et malgré... Enfin, même si je dois... Des fois, je me dis ça, hein, même si, comme ma maman, je dois avoir un traitement à vie, bah, je l'aurai. Mais à côté de ça, je ferai tout pour... être en bonne forme, je continue d'avoir une vie sociale, je fais tout pour être heureuse avec ma famille, mon fils, enfin, on a vraiment la famille, par contre, qu'on a toujours voulu, on n'a pas changé, on est juste maman, il y a juste un titre supplémentaire, mais on est toujours aussi un peu fofolle, on rigole toujours autant, on parle toujours autant, on a un bébé qui est très souriant, et j'ai envie de dire presque à notre image, mais il a son développement à lui, voilà, c'est comme ça. C'est un bébé, il pleure, des fois il râle, mais il sourit tout le temps. Il a un bon développement, et voilà, moi c'est tout ce que ça me va, tout ce qui m'importe. Parce que j'ai
tout fait... est très rassurant.
Voilà, parce que j'ai fait les ostéos, j'ai fait les chiropracteurs, j'ai fait des choses qui sont bonnes, mais trop.
Oui,
trop.
Oui mais ça va. Ça, j'ai envie de dire, t'es humaine. Hein,
mais
toutes
oui.
Les mamans en font toujours beaucoup trop pour leurs enfants, on s'inquiète, c'est normal.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à des fois, je me dis, je me suis trop renseignée. J'ai pas su me calmer, me détendre. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais trop renseignée. Je veux dire, le RGO, je l'ai remarqué, c'est moi qui l'ai remarqué.
Oui.
Et pourtant, j'ai fait 10 heures de portage par jour. Il pleurait chaque biberon. C'était pas pour rien. Si j'avais jamais lu d'articles ou de témoignages là-dessus, j'aurais pu toujours attendre encore maintenant.
Oui, mais ça, c'est terrible. Hein. Les professionnels de santé ne nous écoutent pas.
Mais oui, ma pédiatre m'a dit « Ah, là, il est nosophagite. » Et moi, j'ai su que l'œsophagite, c'était une complication du RG où il n'avait plus de voix du tout.
Mais oui,
c'était,
il était brûlé, le petit bout.
Ah oui, il y a 3 mois. Enfin, Et jamais m'a dit l'ARGO. Non, Cécile en a, il a eu du AR jusqu'à c'est un an. Enfin bref. Oui. Faut s'écouter, il faut que les gens nous écoutent, il faut que les gens nous rassurent et nous informent. C'est très dur, hein.
C'est très très compliqué, mais je jette pas la pierre aux professionnels de santé. Non. Ils manquent juste de temps énormément. Ils ont pas, voilà, ils sont plus dans le soutien, ils sont plus dans l'accompagnement, ils sont dans le geste mécanique et ils ont pas le choix.
Ouais, complètement, c'est ça.
C'est tout le problème de la santé en France. Bon, on va pas rentrer dans le débat parce que c'est pas, c'est clivant comme débat.
Oui, c'est ça. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut accepter les aides. Les relais, faut parler, faut accepter l'aide thérapeutique, parce que moi ça m'a sauvée.
Mais c'est là où t'as été très forte, hein. C'est que ouais, t'as tout accepté. Enfin, tu vois, des fois quand t'es enfermée dans ton truc, tu veux pas d'aide en plus. Tu veux non, je vais m'en sortir toute seule. Non, toi, t'as eu la lucidité de te dire, il me faut de l'aide. T'as prévenu que ça n'allait pas et tu as demandé de l'aide.
Après, c'est parce que je pense que je sais pas si moi c'était grave ou pas. J'ose même pas imaginer les mamans en dépression postpartum qui ont des phobies d'impulsion et qui disent ne pas aimer leur bébé.
Ouais, mais c'est terrible hein, quand ça arrive.
Moi, j'ai pas eu ça. Coraline m'a demandé, est-ce que tu peux te faire du mal? Est-ce que tu peux faire du mal à Elliot? Elle me l'a dit, cache. Dis ça non jamais. À partir de ce moment-là, elle a déjà été soulagée et ensuite elle a fait tout ce qu'il fallait. Appeler la psy, appeler le centre psychiatrique périnatal, enfin bref, tout ça. Mais oser dire qu'on n'aime pas son enfant alors qu'il y a tout le monde qui dit « il est trop mignon, il est trop choupi, il doit être heureuse ».
Mais il y a des femmes qui le ressentent. Hein, et c'est terrible. Oui. Enfin, pour elles, c'est très, très dur, je pense.
Hein. Et oui, moi, c'est une toute autre approche. C'est une autre, peut-être, je ne sais pas, dépression postpartum. Est-ce que finalement, c'en était une, déjà? C'était lié à mon fils?
Alors, c'est difficile hein, quand on ne met jamais les mots dessus. Et Coraline, elle avait l'air quand même relativement bien informée parce qu'elle a pris les choses en main et elle a fait ce qu'il fallait. Enfin, tu vois, elle a eu la bonne démarche.
Bah parce que déjà, elle était, elle lisait déjà mes posts. Elle savait ce que je postais sur l'association, voilà, Maman Blues. On parlait beaucoup. Et puis, elle avait déjà fait cette approche aussi lors du deuil pour le deuil de ma sœur. C'était elle qui avait appelé une psychologue, enfin tout ça. Donc je pense que, et puis non, on est, enfin niveau prise en charge familiale, on le fait beaucoup avec nos propres parents, enfin nos mamans respectives, donc voilà, faire les premiers pas, les premières démarches, on y va quoi. On l'a fait pour la PMA, on l'a fait pour l'adoption, et on le fera pour quand ça va pas.
Oui.
Voilà, c'est les premiers pas. Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas. Là, elle voulait juste qu'il se passe quelque chose. Quand on va pas bien, il faut faire quelque chose. Il faut trouver la chose.
Il faut agir.
Donc, on a cherché, et, on a appelé, on a pris des rendez-vous, on a consulté, et voilà.
Et quels sont les conseils que tu donnerais à une famille qui se retrouve avec une personne en postpartum? Je précise une personne parce que ça peut aussi concerner les coparents.
Oui.
Donc.
Oui. Ne pas avoir peur de parler. Être prêt à écouter, parce que je pense que la personne qui écoute peut entendre des choses très violentes aussi. Faut les accepter, ça peut être dur. Enfin, moi, je sais que j'ai gâché le début de maternité de Coraline.
Elle le ressent comme ça?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux la croire et je la crois, mais moi, j'ai ce ressenti-là. On va pas me dire forcément que j'ai pas gâché cette maternité, ce début de maternité en faisant ce que j'ai fait. Enfin, ça a pas été super cool, quoi. Donc, essayez de parler. Apprendre à écouter, proposer, accompagner, forcer non, mais dire que, enfin, prouver
proposer.
Par, oui, proposer, voilà, mais prouver aussi par A plus B que finalement, c'est ça dont tu as besoin. Essayer, voilà, essayer. On essaye. Moi, j'ai essayé le centre psy périnatal, mais non,
c'était pas ça.
J'ai jamais vu de psy. J'ai jamais vu d'entretien. On m'a jamais parlé. Enfin, si, un peu, mais, c'était la garderie, quoi.
C'est fou.
Ah, c'est incroyable.
C'est pas leur rôle.
Non, pas du tout. Non, je suis pas là pour attendre en fait. Mm-hmm. Je suis là pour être en action, quoi. Donc.
Oui.
J'ai essayé. Ça m'a pas convenu. Et on a essayé autre chose. Et voilà. Il faut que les deux personnes soient à l'écoute et parlent.
Ouais, c'est très important. Ouais. Je pense la communication, c'est ce qu'il faut retenir.
Et c'est ça, même quand on s'engage, quand on veut s'engager dans une parentalité, coparentalité, il faut que le couple soit solide ou pas, non, parce que on peut être un couple solide et dès qu'on devient parent, boah, tout retravailler. Mais je veux dire, si déjà de base, il y a une base de communication, la communication, c'est la base. On le dira jamais assez.
C'est clair.
Oui, c'est la base.
Pourtant, on le sait tous, hein. Ne pas s'enfermer dans son truc.
Ouais, 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 exactement. Et ne pas se sentir fautive. Mais bon, ça, je le dis, mais je me le sens fautive. Donc,
Oui, voilà. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile de ne pas culpabiliser.
Être patiente, parce que je sais que moi, quand Elliot a commencé à sourire et à rire, je me suis détendue.
Bah oui, parce qu'il il te signifiait qu'il allait bien.
Voilà. Il signifiait, je pense, qu'il m'aimait aussi. Et voilà. Qu'il allait bien et qu'il m'aimait. Bon, c'est tout ce que j'attendais.
Ouais.
Et on va pas se mentir, hein, c'est pas vraiment le premier et deuxième mois qu'on voit ça, quoi.
Non.
Non.
c'est normal, c'est un bébé.
Il ne sait pas encore comment faire.
C'est ça.
Et accepter. Moi, j'accepte les médicaments, j'accepterai le temps qu'il faut.
T'as la bonne posture, hein, clairement. T'es dans le droit chemin, enfin, dans le bon chemin, je pense.
Bah après, voilà, je me suis retrouvée aussi comme j'étais aussi un peu avant. Donc, je sais pas si des fois, le fait de prendre un traitement change la personnalité de quelqu'un de base. Je sais pas ça. J'ai pas lu de choses à ce sujet. Mais moi, je me retrouve un peu comme avant. J'ai retrouvé, je l'ai pas perdu, mais ma femme, voilà, qui est pareille qu'avant. Et puis, bah, Elliot qui nous suit. Donc, j'accepte les médicaments. C'est pour être comme ça, je les accepte. Mais il va falloir aussi que j'apprenne et faire un autre travail sur moi, de me sevrer.
Oui, mais tu te feras accompagner, ça se fera tranquillement.
Voilà, être accompagné, voilà.
Ça, c'est important, être bien accompagné.
Juste une chose aussi, trouver un échappatoire. Moi, ça a été du coup le compte Les Daronnes en devenir. Ça
qui t'a servi d'exutoire. Oh,
mais incroyable, j'ai eu des témoignages, des commentaires bienveillants, de belles choses, de belles rencontres virtuelles qui se sont dévirtualisées. Déjà nous deux.
Tout à fait.
Oui, il y a ça aussi. Instagram ne m'a pas aidée aussi.
Non, je voulais en arriver un peu là aussi.
C'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ce passage-là. C'est que je posais énormément de questions via Instagram sur quoi faire, quoi dire, quoi acheter. Ça ne m'a pas aidée.
Et puis, il y a ce mythe de la mère parfaite qui est véhiculé par beaucoup de comptes.
Oui, ou plutôt envie, j'ai envie. Oui, bah oui, du coup, la mère parfaite peut-être, mais c'est surtout que... Moi, j'ai demandé. J'ai beaucoup demandé. On m'a donné trop de conseils et trop, c'est trop. Mmh. Je me suis perdue. Du coup, je suis « Ah, mais il y en a une pour qui ça a marché, ça, l'autre, ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois prendre? Et si je fais une erreur dans ce que je prends ?» Voilà.
Donc, c'était toujours ton côté surinformatif
Et un jour, j'ai arrêté et ça s'est beaucoup mieux passé.
Bon, on note aussi les réseaux sociaux avec parcimonie.
Voilà, vous vous lâchez. Mais pour les conseils... demander individuellement, aller voir quelqu'un et garder le même, ce conseil-là. N'allez pas chercher 30 000.
Oui, c'est ça. Une personne de confiance qui peut vous répondre et vous rassurer.
Et dire si elle ne sait pas, dire que vous ne savez pas.
Exactement. Et référer vers les personnes qui savent.
Voilà.
Mais exactement. Seulement à ce moment-là.
Voilà.
Merci beaucoup, Oriane.
Ben, merci à toi, surtout.
Je t'en prie. Surtout, merci d'avoir bien voulu te livrer sur cette période et de revenir sur cette période qui n'a pas été simple pour toi. Et on l'a bien perçu. Enfin, moi, je l'ai vraiment perçu sur ton compte Instagram. C'était, voilà, c'était poignant. J'avais vraiment envie de venir de tout poser, de venir te donner un coup de main. Mais en même temps, c'est difficile de faire. En plus, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir apporter ou amener et si on va pas faire pire qu'autre chose. Mais vraiment, merci. Je pense que c'est hyper important. Aussi, parce que même si la parole se libère, c'est beaucoup de couples hétéroparentaux, enfin de familles hétéroparentales autour desquelles la parole se libère sur la dépression du postpartum. On est aussi concernés. Il n'est pas de question de composition familiale dans ce type de pathologie. Donc vraiment, si vous vous sentez dans cette situation-là, je remettrai les comptes Instagram que tu as cités et évidemment ton compte Instagram aussi. Mais surtout, voilà, renseignez-vous et faites-vous accompagner.
C'est vrai, exactement.
Merci Oriane.
Merci Constance.
On estime, en France, que 10 à 15% des jeunes mères souffriraient de dépression du postpartum, un mal à différencier du baby blues qui lui toucherait jusqu'à 80% des femmes. Selon les sites, les chiffres diffèrent. Ce qui est indéniable toutefois, c'est que les chiffres augmentent systématiquement. Suite aux réflexions qui ont été menées lors de la campagne des 1000 premiers jours et à la tenue des assises de la santé mentale, il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 2022, un entretien de dépistage systématique serait mis en place dès la 5e semaine, et qu'un deuxième entretien de dépistage serait réalisé pour les femmes dites à risque ou dépistées en ce sens à la 12e semaine. Même si c'est encore trop peu, j'y vois là la reconnaissance de ce trouble comme un vrai trouble et comme une vraie difficulté pour les jeunes parents entrant dans la parentalité. C'est quelque chose de très positif à mon sens. Il y aura encore beaucoup à faire et je pense que nous avons beaucoup à apporter dans la parentalité. La clé, comme je le dis dans mon introduction, c'est l'information. Pour pouvoir admettre que l'on est touché par ce symptôme, il faut pouvoir le connaître. Et pour le connaître, il faut en être informé. C'est pour cela que si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider, qu'il peut vous permettre de faire reconnaître ce trouble pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser, à le faire partager aussi de votre côté. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est tout nouveau, tout beau, tout frais maintenant sur Spotify. Vous pouvez aussi noter le podcast et je vous invite à le faire. Et je vous propose que l'on se retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour poursuivre la discussion sur ce sujet et en entamer de nouvelles. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à jeudi pour le deuxième épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone.